France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
Myopie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, cataracte, les maladies de la vision sont nombreuses et fréquentes, et pour certaines même de plus en plus fréquentes, puisque l'on estime par exemple qu'une personne sur deux sera myope en 2050. Pour les corriger, lunettes, lentilles, chirurgie, de nombreuses solutions existent aujourd'hui, des solutions qui ne cessent de progresser mais qui ne datent pas d'hier. Ainsi, l'apparition des premiers verres correcteurs s'est certainement faite au Moyen-Âge. On trouve en effet dans le monde arabe des traces de l'utilisation de pierres volcaniques transparentes au pouvoir grossissant, et c'est à la Renaissance, grâce à la maîtrise des souffleurs de verre de Murano près de Venise, que du verre est utilisé. Et si l'on parle chirurgie, il faut là remonter au 8e siècle avant Jésus-Christ en Inde. On opérait la cataracte en poussant le cristallin opaque à l'origine de la maladie en arrière avec une aiguille, et ce bien sûr sans anesthésie ni règle d'asepsie, on ne parle pas des résultats. Mieux vaut évoquer ceux d'aujourd'hui remarquables, c'est ce que nous allons faire avec notre invité, spécialiste de la chirurgie ophtalmologique, qui nous dira ce que l'on peut opérer, comment et avec quels résultats, et on parlera aussi coûts et prise en charge et de la recherche qui existe dans ce domaine. Cathy Albouganem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien ophtalmologiste, spécialisée dans le domaine de la chirurgie de la cataracte et de la chirurgie réfractive. On va expliquer tous ces mots. D'abord, je voudrais qu'on parle un peu de vous, de votre véritable passion pour ce métier qui remonte à votre enfance. Votre père était ophtalmo également et travaillait à l'hôpital, mais aussi consultait dans l'appartement familial où vous pouviez voir les instruments nécessaires à son métier. Et ça vous intéressait?
Beaucoup. Effectivement, je suis tombée dedans relativement petite et mon père était chef de service à la Fondation Rothschild le matin et l'après-midi, il travaillait dans son cabinet. Et c'est vrai qu'à l'époque, les patrons avaient pour habitude de travailler dans leur appartement. On terminait la consultation. À l'époque, on rangeait les verres sur les montures, on les rangeait dans un petit rack. Et j'aimais beaucoup faire ça. Et puis, regarder les appareils, ça me fascinait. Je suis tombée effectivement dans l'ophtalmologie petite.
Et dans la chirurgie, puisque la décision de votre avenir s'est faite, vous aviez un peu plus de 10 ans dans un bloc opératoire.
Exactement. Comme mon père était ophtalmologiste, la maîtresse de l'époque m'avait demandé de faire un exposé sur l'œil. Alors déjà, le préparer avec mon père, c'était un grand bonheur parce qu'effectivement, il n'avait pas beaucoup de temps à nous consacrer. Donc là, il était obligé de faire un petit quelque chose avec moi. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et puis, à l'issue de cet exposé, je lui ai posé la question de savoir si je pouvais éventuellement venir au bloc opératoire assister à des interventions. Bon, il était un petit peu étonné par cette demande. Quand je suis arrivée au bloc, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a prévenu les infirmières autour en disant « si jamais vous voyez qu'elle pâlit un peu, vous la faites sortir tout de suite ». Et il m'avait prévenu « si jamais tu sens que ça ne va pas bien, tu sors ». Et j'ai été fascinée par la chirurgie, étonnamment d'ailleurs, enfin ils étaient tous étonnés. Et je sais qu'il avait un de ses aides qui n'avait pas d'aide opératoire, et qui m'a prise comme aide pour, à l'époque, il fallait juste verser un petit peu de sérum fi sur l'œil. Mais le fait de m'habiller en chirurgien, de mettre des gants, pour une gamine de 10 ans, c'était absolument fascinant. Quand je suis sortie, je lui ai dit, voilà, je serai chirurgien ophtalmologiste comme toi.
Et c'est réussi, puisqu'aujourd'hui, vous êtes une de nos meilleures chirurgiens ophtalmo. On va voir déjà quels défauts on peut corriger aujourd'hui, sur lesquels vous travaillez. On précise qu'on ne va pas évoquer toutes les maladies de l'œil. On ne parle pas de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on ne parle pas du glaucome, ça sera pour une autre émission. On va parler myopie, hypermétropie, astigmatisme déjà. Pour faire simple, c'est quoi? Quel est le défaut des yeux de ces personnes?
Alors, c'est des morphologies des globes oculaires qui entraînent la myopie lorsque l'œil est trop long, schématiquement, et que l'image se forme en avant. L'hypermétropie, lorsque l'œil est trop court, l'image se forme en arrière. Et l'astigmatisme, c'est lorsque la cornée a la forme d'un citron au lieu d'une orange, c'est-à-dire que tous les méridiens n'ont pas le même rayon de courbure, et donc l'image se forme un petit peu déformée.
C'est très clair. Il y a les maladies également avant tout liées à l'âge, que sont la presbytie et la cataracte. Et là, il se passe quoi?
Alors, la presbytie, c'est lorsque le cristallin n'accommode plus. C'est le premier vieillissement.
Le cristallin, en fait, c'est la lentille.
La lentille qui accommode, en voilà. Fait. C'est la lentille qui permet de faire la mise au point de la vision de loin à la vision de près. Lorsqu'on est jeune, on ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on le fait spontanément. Et lorsqu'on devient presbyte, progressivement, le cristallin diminue le pouvoir d'accommoder, donc de modifier sa courbure, et on se fige en vision de loin, schématiquement. Mmh. Et c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais porté de lunettes ne peut plus lire de près, quelqu'un qui a besoin de lunettes modifie la puissance de ses verres, et on passe au verre progressif, schématiquement, pour voir de près. Donc la presbytie, c'est la première modification de ce cristallin qui ensuite va se opacifier. Hein, c'est-à-dire qu'au départ, il devient rigide, ensuite il devient jaune, et ensuite il devient opaque.
Je disais, c'est avant tout lié à l'âge. Pour la cataracte, ça peut survenir plus jeune, ça peut survenir même chez les bébés.
Exactement. On a, alors, c'est le plus fréquent, c'est la cataracte liée à l'âge, effectivement, donc qui survient en moyenne en France, c'est 65-70 ans, on commence à avoir une petite modification du cristallin. On a des bébés, effectivement, qui ont des cataractes congénitales avec des pathologies, donc là, on rentre dans, effectivement, des maladies, donc il y a souvent des choses associées ou bien un problème qui s'est passé pendant la grossesse. On a des cataractes liées au diabète, les patients diabétiques peuvent faire des cataractes plus tôt. Les patients myopes peuvent faire des cataractes plus tôt. On a des cataractes traumatiques et des cataractes qui rentrent dans le cadre des maladies inflammatoires générales.
Alors, tout ça, ça se traite aujourd'hui. On précise juste que seule la cataracte doit impérativement être traitée, puisque sans traitement, elle conduit à la cécité une fois sur deux. Donc c'est vraiment, là on n'est pas du tout dans le confort, on est dans la nécessité.
Exactement.
On va commencer donc par les solutions qui existent pour la myopie, l'astigmatisme, l'hypermétropie et la presbytie. Vous avez dit un jour que votre passion c'était d'enlever lunettes ou lentilles à ceux qui le souhaitaient. C'est possible grâce à la chirurgie réfractive, avant tout par laser. Dès 70, on a commencé à faire ce genre d'intervention en Russie.
Alors même avant. C'est-à-dire qu'il y a un Japonais qui s'appelait Sato qui a commencé à faire des incisions sur la cornée. Et il s'est aperçu que ça modifiait la courbure et donc que ça pouvait traiter les défauts. Mais il les avait faites au mauvais endroit, donc ça n'a pas fonctionné. Et puis effectivement, progressivement, il y a un ophtalmologiste russe qui a eu l'idée géniale de les faire d'abord en bonne position, c'est-à-dire sur la face antérieure de la cornée, mais ça c'est un petit peu technique, et surtout d'industrialiser cette chirurgie. C'est-à-dire qu'il avait fait une chaîne. Oui. Et donc moi j'ai été en Russie voir sa clinique et en fait c'était un petit peu hallucinant, c'était presque une chaîne de montage, hein. C'était chaque patient était sur un brancard et il passait devant un technicien, je dirais, parce que je ne sais même pas si c'était des chirurgiens, mais il avait lui mis ça au point, et le technicien faisait exactement le même geste. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle des incisions radiaires, il fallait faire 8 ou 16 incisions.
C'est chirurgical, là, encore.
Voilà, exactement. On utilisait un micro-couteau et on faisait des petits traits dans la cornée, ce qui modifiait la courbure et traitait la myopie. Donc le patient faisait, par exemple, enfin, le technicien faisait, par exemple, l'incision de midi, et puis en plus, son voisin faisait l'incision d'une heure, et le voisin, l'incision de 2 heures, etc. Et il y avait un circuit comme ça. Ouais. Donc il a industrialisé et ça a été génial parce que effectivement ça a enlevé probablement d'une manière standardisée, c'est-à-dire que parce que normalement c'est vraiment fait sur mesure, même à cette époque-là où on n'était pas du tout à la précision du laser, mais quand même. Et là, chacun faisait le même geste avec le même couteau et ça passait comme ça. Voilà. Donc il a effectivement laissé un nom, Fiodorov, dans l'ophtalmologie de cette époque.
Et puis donc le laser est apparu en 80. Oui. Vous avez fait partie de ceux qui l'ont testé quand il est arrivé.
On a eu la chance au 15-20, j'étais interne à l'époque, j'étais chef à l'époque, d'avoir le premier laser français. Et comme je faisais déjà cette fameuse chirurgie radiaire, ma patronne, qui était le professeur Limon, m'a dit, écoutez, on va avoir une nouvelle technologie qui arrive pour corriger la myopie. Si vous voulez, vous allez faire l'évaluation de ce laser. Et c'est comme ça que j'ai été fascinée par cette chirurgie, par la rapidité, la précision. Oui. Et encore, on n'avait pas du tout ce qu'on a aujourd'hui, parce que c'était en 1990, donc on a fait énormément de progrès depuis. Mais c'était fascinant par la précision et par la rapidité de l'intervention. Et les patients récupéraient. Et puis, il y avait le mot laser, c'était
c'est
le
incroyable.
Mot magique.
Alors, d'autres lasers sont apparus, il y a l'ASIC qui est apparu, enfin, il y a eu beaucoup d'évolutions. À partir de quand on a pu traiter également donc, donc par cette technique l'astigmatisme, la presbytie, l'hypermétropie. Parce que là, c'était que la myopie tout à fait au
début. C'est-à-dire qu'en 90, on ne traitait que la myopie. Ensuite, on a pu corriger l'astigmatisme vers les années 94-95. Le LASIK qui est apparu, c'est une technique un petit peu différente. Le départ, c'était une chirurgie qui faisait mal pendant 3-4 jours. Le LASIK, en fait, on opère et ça gêne pendant 4-5 heures et le lendemain, le patient reprend ses activités. D'autant plus qu'aujourd'hui, on fait les deux yeux le même jour, alors qu'avant, on faisait un œil puis on attendait pour faire le deuxième. Mais on a ensuite corrigé l'hypermétropie au début des années 2000 et la presbytie tout de suite après.
Est-ce que tout le monde peut être opéré ou est-ce qu'il y a des contre-indications? Je me souviens que quand j'étais plus jeune, on évoquait beaucoup les yeux secs qui étaient une contre-indication formelle.
Alors, c'est pas une contre-indication formelle, il faut juste traiter la sécheresse avant d'opérer. Et donc, il faut le dépister. Évidemment, les patients qui ont les yeux secs, qui en général sont demandeurs parce qu'évidemment, ils supportent plus leurs lentilles. Donc, effectivement, la sécheresse oculaire, ça fait partie de notre bilan systématique. Et quand les patients ont un peu les yeux secs, on donne des colliers en post-opératoire pendant quelques semaines, quelques mois parfois. Et puis, quand ils ont vraiment une sécheresse importante, à ce moment-là, on les traite parfois pendant 6 mois, 1 an, avant de pouvoir qu'ils puissent bénéficier de la chirurgie.
Et il y a des contre-indications ?
Alors, il y a des contre-indications aussi morphologiques de la cornée. C'est-à-dire qu'il faut une anatomie particulière des patients.
La cornée, ce qui est tout à fait en avant de l'œil.
C'est le hublot transparent sur lequel on pose les lentilles. Et c'est cette cornée qu'on va remodeler, que le laser va remodeler. Il va modifier la courbure pour modifier le trajet de l'image, en fait. Et c'est donc ce hublot transparent qui est remodelé par le laser, qui va creuser, c'est un sculpteur le laser, il va creuser dans la cornée, donc il faut avoir une certaine épaisseur déjà, parce qu'on va creuser dedans, et une certaine morphologie pour opérer.
Je voudrais qu'on écoute à présent un témoignage qui est loin d'être rare pour bien comprendre ce qu'on peut obtenir comme résultat. On va écouter Lydie qui témoigne sur Ici Sud-Lorraine dans l'émission Bienvenue chez vous.
J'ai été opérée des deux yeux l'année dernière. J'étais myope depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 60. Et j'ai retrouvé une vision de loin super confortable.
Ouais, et les couleurs.
Par contre, il est vrai que je vois plus de près. Ouais. Mais comme j'ai toujours porté des lunettes, en fait, ça ne me perturbe pas. Je suis plus myope, mais je suis presbyte.
Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, mais oui, on va opérer de la myopie, mais on ne va pas opérer de la presbytie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, déjà, des patients qui ont été opérés de leur myopie, ce qui m'arrive, puisque moi, j'ai commencé cette chirurgie donc dans les années 90, donc maintenant, j'ai des patients que j'ai opérés
qui sont devenus
de leur
presbytes.
Myopie, voilà, qui sont devenus presbytes, et on les opère de leur presbytie, parce que on s'est aperçu que cette chirurgie, elle peut être recommencée. C'est-à-dire que si la morphologie de la cornée le permet, donc toujours si on a suffisamment d'épaisseur, etc., on peut réopérer ces patients. Donc pour eux, c'est un bonheur. Donc on peut ensuite les opérer de leur presbytie. Et chez les on peut associer différentes techniques déjà. Et on peut, quand des patients ont été opérés d'un défaut de vision et qui deviennent presbytes, on peut les réopérer de leur presbytie.
Mais sinon, quand on fait l'intervention, on peut corriger plusieurs troubles en même temps.
Exactement.
Et comment on fait ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on remodèle la cornée d'une certaine manière, donc on peut la rendre multifocale. Et pour corriger à la fois la myopie, astigmatisme, presbytie, hypermétropie, astigmatisme, presbytie, voilà, on peut corriger aujourd'hui tous les défauts de vision, que ce soit au laser ou bien avec les implants, on en parlera peut-être.
Oui, bien sûr. Et dans certains cas, on fait voir un œil de près, un œil de loin.
Exactement. C'est-à-dire qu'on privilégie... Alors, on corrige le tout à toutes les distances, mais en privilégiant un œil de loin et en privilégiant un œil de près. Et ça, le cerveau... Le cerveau, en fait, il reçoit deux images différentes. L'œil droit et l'œil gauche donnent une image différente au cerveau. C'est ce qui permet le relief, globalement, schématiquement. Ouais. Et donc, on utilise cette fonction que le cerveau a de fusionner deux images qui ne sont pas les mêmes dans la profondeur de champ. Profondeur de champ, ça veut dire une image de loin, une image de près. Et donc, on met l'œil directeur, donc ça se teste avant. On met un œil privilégié de loin et l'autre œil privilégié de près schématiquement.
C'est hallucinant. On l'a dit, la myopie augmente, il y aura de plus en plus de demandes. Bon, il y a un frein à la chirurgie, bien sûr, c'est le nombre d'ophtalmos, mais c'est aussi le coût. Cette chirurgie n'est pas prise en charge, elle coûte cher. C'est quoi en moyenne les prix ?
Alors, c'est vrai que les patients deviennent de plus en plus myopes. C'est vrai aussi qu'il y a un frein culturel aussi. Cette chirurgie, elle est taboue. Il y a beaucoup de patients, d'abord, qui ne savent pas qu'on peut tout opérer. Mais même hier, j'ai encore des patients qui m'ont dit « Ah, mais je ne savais pas qu'on pouvait opérer le tout. Oui. » Et en particulier la presbytie. Alors, pour répondre à votre question, le coût de l'intervention, globalement, c'est à peu près 3-4 ans de lentilles. Et il faut compter autour de 3 500 euros pour les deux yeux, frais de clinique compris, en moyenne.
D'accord. Et c'est jamais pris en charge, la myopie?
Alors, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale qui considère que c'est une chirurgie de confort, mais c'est pris en charge aujourd'hui par certaines mutuelles qui, effectivement, elles n'ont plus à rembourser les lunettes et les lentilles, donc certaines mutuelles sont intéressées par la chirurgie.
Juste un mot pour les très grands myopes, par exemple les myopies au-delà de moins 10, on met dans ce cas-là des implants?
Des implants, exactement. C'est-à-dire qu'on ne touche pas à la cornée et on insère
Il faudrait trop la modeler?
Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'épaisseur pour creuser. Et on insère une lentille entre le cristallin et l'iris, c'est-à-dire derrière la partie colorée, schématiquement. On insère une lentille qui est programmée en fonction des données du patient, de sa myopie en l'occurrence. Et là aussi, ça donne de très très bons résultats. Parce qu'être myope de moins 14, c'est réellement un très gros handicap.
Alors ces implants, ils sont en revanche systématiquement posés lors de la chirurgie de la cataracte. Cette chirurgie, c'est quand même l'acte chirurgical le plus pratiqué en France.
Exactement.
900 000 interventions en 2022. Vous avez dit, c'est parce que le cristallin se pacifie. Donc on va le remplacer, ce cristallin pacifié, par un implant artificiel transparent, lui. En pratique, vous faites quoi?
Alors cette chirurgie, déjà, on la propose beaucoup plus qu'il y a 30 ans. Parce que...
Plutôt qu'avant, notamment.
Alors, on la propose quand le patient est gêné. Mmh. Avant, on attendait, on disait, il faut attendre que la cataracte soit mûre. Parce que, à l'époque, il y a, même quand j'ai commencé l'internat, les patients passaient 8-10 jours à l'hôpital.
Ah oui.
Parce que il fallait, on faisait une incision qui était très large, avec des sutures qui étaient très fines. Il fallait, c'est de là que viennent les notions. Il faut pas se pencher la tête, il faut pas soulever des poids lourds, il faut pas, etc.
Ah,
parce que ça date de cette époque-là où effectivement il fallait rester vraiment très calme, très stable pour ne pas qu'il y ait de problème. Mm-hmm. Aujourd'hui, on fait des incisions de 2 mm, c'est-à-dire quasiment, on ouvre quasiment plus l'œil, et on arrive à opérer des patients de cataracte en un quart d'heure, une demi-heure. Donc, c'est très rapide.
Et le patient récupère. Vous allez détruire le cristallin.
En fait, on broie le cristallin.
C'est ça. Et à la place, on met une lentille.
Et on met un implant. En fait, c'est comme un œuf à la coque. On fait un orifice antérieur. On vide le jaune, c'est le noyau du cristallin. On vide le blanc. On laisse la coquille et on met l'implant dans la coquille. Schématiquement, c'est ça une chirurgie de la cataracte. Et ça se fait à travers une incision de 2 mm. On va broyer le cristallin et l'aspirer.
Pour la myopie, vous avez dit, c'est quelques heures désagréables. Là, c'est comment les suites de la chirurgie de la cataracte?
La cataracte, alors, aujourd'hui, on fait encore un œil après l'autre. Ça gêne pendant 4-5 heures. La vision, elle met 24-48 heures pour remonter. Mais c'est très rapide. La récupération de la vision, elle est extrêmement rapide.
Pourquoi vous faites un œil après l'autre? Pourquoi pas les
alors,
deux?
Alors, on a gardé encore cette habitude parce qu'on avait toujours... peur du risque infectieux, comme dans toute intervention chirurgicale. On ouvre un œil quand même, même si on l'ouvre 2 mm, on ouvre un œil quand même. Alors, aujourd'hui et maintenant depuis une quinzaine d'années, on injecte un antibiotique dans l'œil à la fin de l'intervention, ce qui a quasiment réduit à zéro le risque infectieux. Et il y a beaucoup de pays qui commencent à faire une chirurgie bilatérale d'emblée. Donc, je pense qu'on va y venir.
Et effectivement, il y a des gouttes à mettre pendant 3 mois. Enfin,
exactement,
il faut être très rigoureux
exactement.
Pour la suite. C'est le risque principal, l'infection?
Alors, c'était le risque principal. Après, effectivement, on a un peu les yeux secs. On peut avoir toujours un risque hémorragique, inflammatoire. Mais ça reste vraiment très, très, très limité. Globalement, la chirurgie, elle se passe très bien.
Et alors, avec cette chirurgie, qu'est-ce qu'on peut corriger en dehors de la cataracte? Si on arrive chez vous, on a une cataracte, mais on est aussi myope et on est aussi presbyte. Comment ça se fait? Parce qu'on parle d'implant unifocal, multifocal, c'est quoi?
Aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des optiques différentes, comme les lunettes. On peut avoir un implant qui corrige une distance, donc on choisit avec le patient. On a des implants qui corrigent plusieurs distances, des implants qui donnent des profondeurs de champ. Donc en fait, c'est une discussion avec le patient. Et aujourd'hui, on peut quasiment, après on a des petites astuces, toujours pareil, on met un œil de loin, un œil de près. Donc on peut quasiment...
Et même si c'est tard, parce que c'est une chirurgie souvent de la personne âgée, d'abord, est-ce qu'il y a une limite d'âge?
Non.
C'est la personne souvent âgée. Le cerveau, il va, quel que soit l'âge, il va
alors,
arriver à
s'adapter. Ça dépend de l'état intellectuel du patient, de son état physique, etc. C'est sûr que, d'abord, il faut un œil sain en dehors de la cataracte. Donc, pas de DMLA, on en parlait tout à l'heure, pas de
dégénérescence spaculaire liée à l'âge.
Voilà. Pour pouvoir mettre un implant multifocal, il faut que l'œil soit strictement normal en dehors de la cataracte. Que le patient, quand même, le demande aussi. Et qu'il ait quand même un cerveau qui soit bon.
D'accord.
Alors, il faut savoir aussi que ces implants peuvent donner des halos autour des phares de voiture, donc on ne mettra pas à un chauffeur de bus, par exemple.
D'accord.
Mais, globalement, on a des astuces pour tout corriger, ou en tout cas, En tout cas, si on n'arrive pas à tout corriger pour des raisons qu'on vient de décrire, on a la possibilité d'alléger beaucoup, beaucoup la puissance des verres. Donc, d'accord, de donner une autonomie aux patients pour une bonne partie de leurs activités et puis mettre des lunettes occasionnelles.
Le coût de cette intervention et la prise en charge.
Alors, il y a une prise en charge par la Sécurité sociale parce qu'effectivement, c'est une pathologie. Hein, on le disait tout à l'heure, la cataracte, c'est une pathologie. Donc, il y a une prise en charge Sécurité sociale et mutuelle. Mm-hmm. Et donc, le reste à charge dépend de la qualité de la mutuelle.
C'est une chirurgie, on l'a dit, très très fréquente, mais ça continue à inquiéter beaucoup des patients qui doivent se faire opérer parce qu'on va toucher à leurs yeux. Ouvrir quand même. Oui. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites? Et est-ce que parfois vous faites une anesthésie générale pour ces patients-là?
Alors jamais, mais on est toujours avec un anesthésiste. Et l'anesthésiste, il déconnecte le patient si besoin. C'est-à-dire que le patient, il est un petit peu en dehors. C'est-à-dire, il répond. Si on lui pose une question, il est là. Mais en même temps, sans être là, il oublie un peu ce qui se passe. Donc on lui enlève l'angoisse, en fait.
Est-ce qu'on peut encore évoluer dans ces chirurgies qui sont
On va évoluer.
Oui. Grâce à l'IA, notamment, ou pas?
Alors, oui, grâce à l'IA, parce que l'implant, il est calculé, malgré tout. Hein, c'est une puissance qui est calculée en fonction de beaucoup de paramètres. Donc, on fait des progrès dans le calcul de la puissance de l'implant, justement, pour enlever les lunettes des patients. Et surtout, ce qu'on attend, nous, c'est de retrouver l'implant qui remplace le cristallin vraiment. Le cristallin, quand on est jeune, il accommode, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ça, on ne sait pas faire.
D'accord.
La nature nous donne quelque chose, comme beaucoup de choses dans le corps, nous donne un comme l'élasticité de la peau, comme
d'accord,
beaucoup
oui,
d'éléments.
C'est-à-dire qu'il
l'accommodation.
Il modifie
sa courbure.
C'est ça.
Il est souple. Il modifie sa courbure. Et ça, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire des implants accommodatifs. On a essayé. Ça ne marche pas. Et donc, l'espoir, c'est de trouver l'implant accommodatif ou de trouver un moyen de ne plus avoir de cataracte.
Ce serait bien aussi. On a appris qu'aux États-Unis, il y a une équipe de chercheurs qui venait dévoiler une technique révolutionnaire pour corriger la vision sans laser, sans bistouri, grâce à l'électricité. C'est une piste intéressante?
Alors, on l'a fait, ça.
Ah, hein, d'accord. Oui.
On l'a fait. Ça modifie la courbure de la cornée. On a fait des choses comme ça. Le problème de toutes ces techniques, c'est que ça ne régresse pas. Il faut pas que ça régresse, en fait. Parce
d'accord.
qu'on a utilisé pas mal de techniques on a parlé aussi, il y a eu des gouttes qui sont arrivées aussi sur le marché, etc. En fait, le problème, c'est que ça ne dure pas. L'avantage du laser, c'est qu'on creuse, on modifie la courbure, et globalement, sauf la presbytie, parce que la presbytie évolue. Ça dure dans le temps. Les myopes, quand on les opère et que leur myopie n'évolue pas, ils sont plus myopes toute leur vie. C'est pour ça qu'on les opère de la presbytie après. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent bouger. Donc, c'est une piste, mais c'est à voir.
Et on continue à parler de recherche avec notre chronique science. Près d'un cinquième de la population mondiale souffre de troubles de l'olfaction. Comment retrouver l'odorat grâce à une prothèse? C'est le sujet de la chronique d'Alexandra Delbo.
Carnet de santé.
Comment restaurer l'odorat quand il ne fonctionne plus? Il y a trois grandes étapes dans l'olfaction. D'abord, les molécules odorantes présentes dans l'air entrent dans le nez. Ensuite, seconde étape, elles vont se fixer sur des récepteurs olfactifs dans la cavité nasale. Un peu comme une clé dans une serrure, chaque odeur va se fixer sur un ou plusieurs récepteurs parmi des centaines. Et puis, troisième et dernière étape, l'information va remonter au cerveau par le biais de neurones olfactifs. Ce code chimique est déchiffré et interprété pour en reconnaître la nature, mais aussi la sensation, agréable ou désagréable. Il y a 5 à 10 millions de neurones olfactifs chez l'humain. À titre de comparaison, c'est 250 millions chez le chien. Ça, c'est quand ça marche, mais il arrive que l'odorat ne fonctionne plus ou plus aussi bien. Selon les études et les pays, jusqu'à 20% de la population mondiale présente des troubles de l'olfaction. Mustapha Ben Safi est directeur de recherche CNRS dans l'équipe Neuropop du Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Concernant les différentes pathologies qui provoquent une anosmie, la plus fréquente, c'est l'anosmie post-virale, comme on l'a beaucoup vu dans le Covid. Deuxième cause la plus importante, c'est l'anosmie post-traumatique, à la suite d'un choc, par exemple, qui va endommager les voies olfactives. Une troisième cause plutôt importante aussi, c'est ce qu'on appelle l'anosmie sino-nasale, par exemple chez les personnes qui ont des polypes dans le nez. En fait, les molécules odorantes n'arrivent tout simplement pas jusqu'au récepteur. Alors, heureusement, ce n'est pas permanent chez tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui récupèrent totalement leur odorat, notamment après une anosmie post-virale. Le chiffre de 20%, il englobe toutes les formes d'atteinte. En réalité, il y a environ 15% de pertes partielles. Ces hyposmies sont souvent légères et beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte, en fait. Et on va avoir 5% d'anosmie qui, pour le coup, est une perte totale et qui augmente surtout avec l'âge. Donc oui, c'est fréquent, mais toutes les formes ne sont pas sévères ni définitives.
D'autres pathologies peuvent aussi provoquer des troubles de l'olfaction. C'est le cas de certains cancers, de troubles métaboliques comme le diabète, de la dépression ou encore de la maladie d'Alzheimer. Et ces anosmies ou hyposmies ont des conséquences lourdes sur la vie quotidienne. C'est un handicap. Ne pas sentir, c'est ne plus prendre aucun plaisir à manger parce que le goût et l'odorat sont intimement liés, avec des répercussions possibles sur la nutrition, oui, mais aussi sur la santé mentale. Et puis, l'odorat, c'est un détecteur de danger, d'un plat oublié sur le feu ou d'un aliment avarié, par exemple. Face à cela, des stratégies thérapeutiques ont été développées, des médicaments, des interventions chirurgicales ou de l'entraînement olfactif, mais aucune ne fonctionne pour tout le monde, car leur efficacité dépend de la cause même de l'anosmie et de l'étape du circuit olfactif qui est touché. Alors, l'enjeu, c'est de trouver un moyen universel de retrouver l'odorat, et c'est ce que développe cette nouvelle étude parue dans Science Advances avec une prothèse olfactive. C'est un double dispositif. D'un côté, il y a un nez artificiel, c'est lui qui détecte les odeurs présentes dans l'air, et de l'autre, un stimulateur intranasal permet de convertir cette information chimique en un message neuronal interprétable par le cerveau. La partie électronique est placée sur une paire de lunettes et seul un petit élément de la taille d'une petite pile ronde se loge dans le nez. Et résultat, des personnes anosmiques parviennent à distinguer des odeurs de lilas, de framboises ou de poisson grâce à un autre système sensoriel.
C'est pas une vraie prothèse olfactive au sens strict qu'on a développé, c'est une preuve de concept de prothèse de substitution. On détecte bien de vraies molécules odorantes, mais la stimulation, elle est envoyée au cerveau par un autre système sensoriel. Et en l'occurrence, ici, ce système, il s'appelle le système trigéminal. C'est un système sensoriel qui est présent dans le nez. C'est lui qui nous permet de sentir le piquant d'un piment, la fraîcheur de la menthe ou le picotement des boissons gazeuses. Et concrètement, à chaque fois qu'on présente une molécule odorante au nez artificiel, on l'associe à un pattern de stimulation spécifique. Et nos résultats montrent en fait deux choses importantes. Premièrement, la majorité des participants ils perçoivent clairement l'apparition d'un signal quand une odeur est présentée au nez artificiel. Et surtout, une majorité d'entre eux parviennent à distinguer deux stimulations différentes. Donc en fait, deux odeurs différentes.
Les 50 participants ont été capables de dire « je sais qu'il y a une ou deux odeurs, mais pas « je reconnais précisément cette odeur ». Et c'est normal, ils perçoivent une sensation trigéminale avec cet autre système sensoriel, bien moins précis que celui de l'olfaction. Est-ce que les patients anosmiques pourront un jour réellement percevoir des odeurs? C'est l'ambition. L'enjeu à présent est double. D'un côté, améliorer le détecteur, le rendre plus fin, plus fiable, car tous les patients n'arrivent pas à distinguer deux odeurs, et également miniaturiser les capteurs pour qu'ils soient intégrables dans la vie quotidienne. De l'autre, il faut travailler sur l'apprentissage. Les patients doivent apprendre à interpréter les signaux du système trigéminal. C'est un nouveau langage pour donner du sens à ces stimulations intranasales. Finalement, c'est apprendre à utiliser une prothèse comme on apprendrait à se servir d'une nouvelle main ou d'un nouveau pied.
Cathy Albouganem, encore une question. On l'a dit, la myopie augmente beaucoup, notamment dans certains pays, mais beaucoup. Est-ce que pour nos enfants, petits-enfants, on peut faire quelque chose pour éviter qu'ils ne deviennent myopes?
Alors effectivement, la myopie augmente parce que on est de plus en plus sollicité en vision de près, ce qui allonge le globe oculaire et qui fait augmenter la myopie. Donc si on peut donner rapidement un conseil, pas d'écran avant, alors en tout cas 5 ans, voire même plus.
Pour les yeux, c'est important.
Ah oui, c'est vraiment, quand on voit effectivement ces enfants qui sont avec leurs écrans d'iPad toute la journée à 50 cm et encore 10 cm de leur nez, c'est le meilleur moyen d'avoir des myopies chez les jeunes adolescents pour plus tard. Et les faire sortir. Il faut la lumière du jour. La lumière du jour sécrète de la dopamine qui empêche l'œil de s'allonger. Donc il faut que les enfants ne soient pas trop sollicités en vision de près. Il faut les faire lire des bouquins. Et parce que les écrans, toute la journée, c'est très très mauvais. Et il faut qu'ils fassent du sport dehors.
D'accord.
À la lumière, pas du sport en salle, D'accord. à la lumière de dehors. Il faut laisser D'accord. les enfants jouer dehors.
Parfait, c'est des conseils simples quand même.
Jour. Exactement.
C'est simple. Mais merci infiniment pour avoir raconté tout cela. Merci à Anne-Claire Bazin pour la préparation de cette émission et à Swat Boukorsa et Julien Moulet qui l'a réalisée et mise en ondes.